I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
Faut que je le fasse au pluriel, les invités de la séance live. C'est en tournage qui démarre et on va le démarrer. Et voilà, il n'a qu'une parole. Il est à nouveau là, le réalisateur Quark. S'ils étaient venus pour nous parler justement d'un ciel bleu presque parfait, ils reviennent, ils vont partir en tournage. Ce film a tellement eu de succès que, et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à un film d'ailleurs, qu'ils vont en faire un long métrage. Tous les dieux du ciel, bonjour Quark et bonjour Michael Cohen qui est avec vous aussi.
Bonjour Betty, merci de nous recevoir à nouveau.
Ah mais moi c'est un vrai plaisir. Puis en plus quand quelqu'un n'a qu'une parole et qu'il est à nouveau là, voilà, que demande le peuple,
voilà,
comme on
exactement.
Dit. Alors les garçons, avant de démarrer un petit peu, de revenir sur l'histoire de ce film et puis de ce qui va se passer, puisqu'on va vous suivre en tournage, c'est un peu ça, on vous suit pendant tout cette aventure humaine qu'est le tournage d'un film. Comment vous êtes connus tous les deux?
Bah, Michael et moi, ça fait 4 ans qu'on se connaît, 4-5 ans même.
Ouais,
je tournais, en fait, je cherchais à monter une équipe pour un court-métrage qui s'appelait Nuit Noire. Il y a de ça maintenant, bah, c'était en 2012, je crois, fin 2012. Et je cherchais un premier assistant réal, voilà. Et donc, j'ai mis des petites annonces, quoi. Et puis, j'ai rencontré Michael.
Ça marche encore, les petites annonces?
Non, c'était pas vraiment des petites annonces, mais par le bouche à oreille, quoi. Voilà, on m'a conseillé Michael, on m'a dit qu'il était super. On s'est rencontrés, on a appris à se connaître, on a travaillé sur Nuit Noire, ça s'est bien passé, je crois. Et malgré que le film était aussi assez compliqué à mettre en place, c'était un tournage de nuit en plein mois de février. 10 jours à moitié à poil dehors. Toute la nuit, ça a été dur. Et malgré ça, bah, je crois qu'il a bien aimé parce qu'il a re-signé pour Un ciel bleu presque parfait. Puis maintenant, pour Tous les dieux du ciel. Donc, moi, je suis très content de travailler avec lui.
Michael, qui est un peu aussi à la maison ici, hein, c'est la deuxième fois qu'il vient. Il est venu avec sa casquette de réalisateur pour Moche. Ouais. Et là, il revient en tant qu'assistant réalisateur. Michael, vous confirmez
c'était une amie comédienne qui nous avait présenté et qui nous avait dit, il y a un bon réalisateur qui est intéressant, est-ce que ça te dirait de bosser avec lui? Et puis du coup, bah, j'avais lu le scénario, je m'étais dit putain, c'est ouf, voilà. Et puis il faudrait pas laisser passer l'occasion. Et puis bah, au final, on s'est bien entendu et puis ça a bien fonctionné sur les deux premiers tournages. Et donc
Est aussi ouf encore plus là ou pas?
Bah, c'est-à-dire que pour le premier court-métrage, était assez compliqué, donc Nuit Noire était assez compliqué à mettre en place parce que c'est un court-métrage assez ambitieux, ça se passait de nuit, tout ça, comme le disait Alex. Et puis au final, ça s'était bien fait, ça s'était bien passé. Et puis il était revenu quelques temps après en me disant, j'ai un truc qui est encore plus simple que Nuit Noire à mettre en place, tu vas voir, ça va être ultra simple à mettre en place.
Mais c'est encore plus ouf, c'est ça?
Il m'a passé le scénario, je lui ai dit, mais t'es dingue, c'est pas plus simple, c'est pas du tout plus simple comme truc, c'est super compliqué et tout ça. Il me dit, ah ouais, tu trouves, franchement, non, c'est cool. Bon, écoute, voyons, on va voir si on peut faire quelque chose avec. Et puis au final, c'était super cool à monter parce que c'est à chaque fois, ils poussent toujours la barre un petit peu plus haut. Et puis du coup, c'est des challenges à relever, donc c'est super intéressant, bien sûr.
Et alors, du coup, quand on est comme ça et qu'on se connaît bien, donc du coup, ça va être votre troisième projet ensemble.
Oui,
on a besoin de moins se parler.
On a toujours besoin de se parler, mais
on se comprend plus vite.
Ouais, il y a certains automatismes.
C'est vrai, absolument, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, ça simplifie quand vous travaillez. Alors moi, j'aime bien aussi un petit peu le côté parfois un peu familial que peut avoir une équipe, c'est-à-dire reprendre des gens avec qui ça marche bien, des gens de talent avec qui on s'entend bien aussi sur un point de vue personnel. Il n'y a pas que le professionnel. J'aime bien avoir des relations un peu quand même amicales avec les gens que je travaille au plus proche. Et voilà, continuer aussi après à travailler avec ces mêmes personnes. Je pense que ça crée des liens et ça simplifie le travail.
Un ciel bleu presque parfait, c'est le début de cette nouvelle aventure, Tous les dieux du ciel. Alors ce court-métrage était avec Jean-Luc Couchat et avec Mélanie Guédos. J'imagine que pour le long, on va retrouver les deux comédiens principaux.
Bien sûr, ils arrivent à Paris demain, je crois. Mais Mélanie prend l'avion dans 48 heures et Jean-Luc le train dans 24.
Des petits nouveaux qui vont aussi arriver dans le casting. Mais avant, on va un petit peu parler de l'ambiance d'un ciel bleu presque parfait pour essayer de faire en sorte que nos auditeurs comprennent ce qui va se passer un petit peu après. Je vous propose de revenir un petit peu en arrière et d'écouter la bande-annonce que Mickaël va découvrir.
Alors Simon, ça va ?
Je vais aller, monsieur Marty.
Oh, tenez, j'ai cette commande de 240 pièces d'alu anodisé. Vous pouvez m'y sortir pour ce soir ?
Ben aujourd'hui, c'est pas possible, j'ai plus mon après-midi. J'ai des choses importantes à faire, je l'ai dit à monsieur Tozani.
Tu le vois là,
c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pas pour les filles, alors dégage.
C'est moi qui t'ai dit que papa en cachait un. Montre-le-moi, je veux le voir.
Vas-y, arrête, bouffonne là.
Donne, je te dis.
Tu le veux vraiment? Ok, attends.
Donne.
On voit les capes alors. Donne.
Handicapé comment, à quel point?
Lourdement.
Voilà, franchement, je sais pas.
Je vois, merci d'être venu.
Non mais attendez, rasseyez-vous. Là, c'est bon. Mais je vous demanderai un petit supplément.
Quel genre de supplément?
150.
Non, 50.
100. Allez, on dit 100.
60, je peux pas plus.
Ok, c'est entendu.
Coordonnées GPS sont 51, 28, 38 nord. Depuis quelques jours, ma santé décline. Et des événements dramatiques se passent autour de moi. C'est généralement un signal qui semble proche. J'ai été contacté par eux il y a 25 ans. Je les connais bien. Bon anniversaire, Estelle.
On est encore à $115 le baril.
T'entends? C'est pour bientôt.
Bon, ça nous met un petit peu dans l'ambiance d'un ciel bleu presque parfait. Alors Mickaël?
Oui, là on a bien compris, je pense.
On a bien compris. Bien compris sans trop comprendre.
Oui, bien sûr. Mais...
ça nous a mis dans l'ambiance.
Ça met bien dans l'ambiance, oui.
Je voulais juste rajouter une petite chose parce qu'on on a une très bonne nouvelle là qui est tombée pour un ciel bleu presque parfait parce qu'il était en compétition la semaine dernière à l'Étrange Festival au Forum des Images et là, avant-hier, on a gagné le Grand Prix du public. Alors voilà, ça nous a fait très plaisir. C'était le dernier festival auquel le film participait, en tout cas de son plein gré, parce que c'est vrai que parfois maintenant, il y a des festivals qui prennent le film, ils me disent juste, on va prendre ton film dans le futur, bon, ça je le laisse. Mais dis donc, on l'inscrit plus, on le fait plus participer à des festivals. Et donc c'était le dernier, on est super content d'avoir gagné le prix du public.
C'est beau le prix du public.
À l'Étrange. Ouais, surtout que l'Étrange, c'est vraiment un très beau festival. Et puis le prix du public, c'est vrai, c'est quand même le prix qui fait le plus plaisir parce qu'on s'adresse avant tout à une audience et on fait des films pour qu'ils soient vus et on espère que ça laisse augurer les meilleurs présages pour le film, pour Tous les dieux du ciel, voilà.
Alors Tous les dieux du ciel, comment vous l'avez préparé? Alors on va pas bien sûr spoiler, on va vous suivre tout au long du tournage jusqu'à la post-production, jusqu'à la musique du film. Alors histoire, donc on est un peu rentré dans l'ambiance grâce à la bande-annonce, mais comment, qui se met au pitch? Allez.
Oh, moi, j'en ai marre de faire le pitch.
Allez, vas-y, Mickaël, bah, vas-y, premier vas-y, assistant
c'est,
réalisateur.
C'est ton film.
Bon, il me laisse la patate chaude. Allez. Alors, le pitch, c'est l'histoire de Simon et Estelle, qui sont un frère et une sœur. C'est l'histoire d'un accident, c'est l'histoire aussi du remords. C'est le remords qui rend fou jusqu'à l'absurde. C'est un film qui traite aussi de la schizophrénie. Et voilà, de la schizophrénie, de la folie. Et voilà.
Et bon, un film de genre.
Alors, oui, bah alors, c'est ce que, oui, voilà, oui et non, je dirais. Je pense que c'est à la fois un film d'auteur et à la fois un film de genre.
Mickaël ?
On est à la croisée entre deux mondes, effectivement. On est entre le film, le vrai film d'auteur à la française, ou peut-être plus à la belge qu'à la française, en fait, parce que c'est quand même plus inspiré. Et la science-fiction, quoi. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Ça part très très loin. Et ça ouvre plein de styles différents, ce qui est assez jouissif en tant que spectateur.
Alors, on est sur ce beau court-métrage qui vient de terminer sa course des prix avec le prix du public donc à l'Étrange Film Festival et qui va se transformer en long. Alors, comment vous avez travaillé cette transformation ?
Alors, c'était pas véritablement une transformation, c'est plutôt une mutation, on va dire. Parce que, en fait, dès le départ, le film que j'ai écrit il y a maintenant... Alors, j'ai écrit Un ciel bleu presque parfait, le court-métrage, il y a maintenant 3 ans. Et au départ, quand j'ai écrit ce scénario, j'avais entre les mains, à la fin, le scénario d'un long-métrage. Seulement, bon, tu as vu le film, heureusement, beaucoup de personnes l'ont vu aussi, et c'est un film qui est quand même assez dur, très dur, très sombre, très noir... et qui fait pas, qui rassure, qui, voilà, ça rassure pas vraiment la majorité des producteurs. Ils savaient pas trop comment l'appréhender. Et le fait qu'ils n'avaient pas vu aucune image, on n'est pas arrivé à faire le long métrage à cette époque-là. Donc, ce que je me suis dit très bien. Donc, on a un petit peu peur de moi. C'est pas grave. J'ai pris le cœur du film pour en sortir Un ciel bleu presque parfait, le court métrage. Mais il y avait encore plein de matière à côté qui restait un petit peu en suspens. Et que je n'ai pas abordé dans le cours. Et donc après un an et demi d'exploitation,
en fait, on peut dire que c'est un peu la réalisation du premier rêve, en fait.
Oui, c'est ça. Oui, absolument, absolument, absolument. Alors quand j'ai fait un ciel bleu presque parfait, je n'avais plus l'idée de faire un long métrage, mais en raison du succès du cours Un ciel bleu, donc il a été diffusé pendant plus d'un an et demi au sein de 85 festivals, je crois, à l'international et en France. Donc ça a vraiment super bien marché, des festivals vraiment très prestigieux comme Sundance, comme Clermont, comme Gérardmer, bon, j'en passe encore pas mal. Et donc on a eu un vrai coup de projecteur sur le projet, sur Un ciel bleu presque parfait, et j'ai eu quelques coups de téléphone de personnes plutôt intéressées à vouloir développer cette histoire en un long. Je lui dis, bah écoutez, ça tombe bien parce que justement j'ai un scénario là, voilà. Alors bon, il s'avère que j'ai retravaillé énormément le scénario brut d'Un ciel bleu presque parfait, qui à l'époque était ce qu'il était. C'était il y a 3 ans. Les choses ont quand même pas mal évolué depuis.
Est-ce que quand vous dites les choses ont évolué, est-ce qu'elles ont aussi évolué techniquement pour pouvoir vous permettre d'aller un petit peu plus loin ?
Alors pas vraiment, parce que dès le départ, c'était aussi une volonté de personnel et même une volonté globale au sein de l'équipe. C'était qu'on voulait vraiment traiter le cours, Un ciel bleu, comme si c'était un long métrage. On a travaillé vraiment avec des équipes. Tous les techniciens étaient vraiment que des professionnels, vraiment au top. On avait un matériel qui était ultra performant. On aurait tourné un long métrage dès le départ. On n'aurait pas changé les conditions de tournage en soi, vraiment. On était hyper bien cadré. On a fait vraiment tout ce qu'il nous fallait.
Mais est-ce que du coup, techniquement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles techniques qui vont vous permettre d'aller encore plus loin sur le long?
Alors oui, tu abordes un sujet qui est un petit peu peu comique pour moi, parce qu'effectivement oui, mais ça n'a pas vraiment grand sens, en tout cas à mes yeux. On va tourner en 8K. Alors, je sais pas exactement pourquoi on tourne en 8K, en fait. Bon, on tourne en 8K.
Alors, Mickaël,
ça sert pas grand chose puisque personne peut voir du 8K. Par contre, bon, mais c'est bien, c'est le top. On a le top de la caméra. On tourne avec une Red Helium. Donc c'est super. Donc dans 15 ans, quand on regardera mon film en 8K sur les téléviseurs, on se dira, waouh, c'est vachement la classe. Mais pour l'instant, en fait, on le sait pas.
D'accord.
En fait, là aussi, pour compléter un petit peu ce que disait Quark, ça, c'est que il y a plein de courts-métrages comme ça qui ont été transformés après en long-métrage parce qu'ils ont eu un petit peu de succès en festival et tout ça. Et en tant que spectateur, quand on regarde ces films-là, on a l'impression, en fait, un petit peu de s'ennuyer devant parce que tout a été déjà dit dans le court-métrage. Il y en avait un, notamment, qui avait gagné un Oscar il y a quelques années, c'était Cashback, qui était un super court-métrage. Il est accessible sur Internet, on peut le voir sans problème. Et c'est un super court-métrage, ils l'ont transformé en long-métrage parce qu'il a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage. Et le long métrage est un peu une catastrophe.
Des fois, il faut que ça reste au stade de court. Souvent. Sauf que là,
en fait, c'est l'inverse. L'avantage, c'est que le film, il avait été déjà pensé à l'origine comme étant un long métrage. Certes, le scénario du long métrage à l'origine est différent de celui qu'il est à présent. Mais il y avait déjà les thèmes, il y avait déjà tout ça, en fait, dans la version d'origine. Ce qui fait que le court métrage. Donc un ciel bleu presque parfait en fait est un court métrage qui est ultra dense et quand on le regarde on sent pas passer le temps et on s'en prend plein la gueule. Et puis maintenant en fait le long métrage va amener les personnages sur des trucs qui sont sur des thèmes totalement nouveau dans le film.
Oui, on étire le fil, on n'étire pas le film,
on crée quelque chose de nouveau et c'est ça qui est intéressant. Et pour le spectateur qui a déjà vu le court-métrage, puisqu'il va aller voir un nouveau film, il va pas voir juste une version rallongée du court. Et pour l'équipe technique et artistique, parce que on fait vraiment un nouveau film, on fait pas du tout une redite de ce qu'on a pu avoir auparavant.
Ça c'était pas une peur, mais c'était vraiment quelque chose sur lequel je voulais rester très vigilant, c'est-à-dire de ne pas tirer le court métrage en un long métrage que par des raisons opportunistes de succès par rapport à un ciel bleu. Je m'étais dit que si j'avais pas vraiment véritablement quelque chose à rajouter, une valeur ajoutée énorme à mettre en plus, je le faisais pas. Et il s'avère que voilà, je pense qu'on a vraiment des choses à dire en plus qui méritent d'être dites.
Alors, côté tournage, ça va démarrer le 22, donc J-2 et demi. Comment vous vous sentez? Est-ce que tout est prêt?
Ouais.
Ouais, voilà, c'est le premier assistant qui dit ouais.
Bon. Non, en fait, l'avantage qu'on a sur ce projet-là, c'est qu'on bosse dessus depuis maintenant super longtemps. Tout le monde maîtrise bien le projet. Là où on a eu aussi beaucoup de chance, c'est que Quark a été très très fidèle à l'ensemble de l'équipe et du coup on repart avec toutes les personnes qui ont déjà bossé dessus sur le court métrage et du coup on sait tous de quoi on parle. Voilà, on parle tous la même langue sur le plateau, donc au final puisqu'on connaît tous la même histoire, on connaît tous les mêmes personnages, donc la préparation elle est déjà faite depuis X temps. Maintenant en fait là on est ultra prêt depuis quelques temps. Maintenant c'est juste des petits détails en fait d'organisation à gérer et ça s'arrête à ça. Donc oui, on est prêt.
Ceci dit, vu tous les problèmes que j'ai eu à H-2 et même H+3 sur mon dernier tournage, je reste quand même prudent. Hein.
Prudent, ouais. Toujours un petit peu de prudence.
Oui, oui.
Alors, on retrouve Jean-Luc Couchard, Mélanie Guedos. Ça fait un moment que vous les avez prévenus que c'était parti pour le long. Ils ont dit oui.
Alors, ça fait un moment qu'on les a prévenus, oui. Ils sont prévenus. Bah, Jean-Luc, il est ultra motivé parce qu'il a vu aussi le succès que le film a eu. Je pense qu'il pense que c'est aussi bien pour lui parce que c'est véritablement un rôle, un personnage qu'il n'a pas l'habitude d'incarner. Il est plutôt dans la comédie un peu loufoque, la comédie populaire, Jean-Luc, la majorité du temps. Et je pense qu'il a envie de se détacher un petit peu de ce genre de rôle et de montrer de quoi il est capable.
Ah bah ça lui va très très bien.
Et avec ce film, il a vraiment toutes les... une forte possibilité de montrer l'étendue de sa palette de comédien et de son talent. En ce qui concerne Mélanie, elle est hyper fan. Elle a adoré je pense qu'elle a vraiment beaucoup aimé l'expérience qu'elle a eue sur le premier tournage. Elle a adoré le film. Elle nous a poussé, etc. pour les festivals aux États-Unis. Elle était présente la majorité des fois, etc. Donc, elle était très, très corporate avec nous sur le projet. Elle est hyper contente de recommencer et ça tout se passe assez bien à ce niveau-là.
Alors au casting on retrouve de nouvelles têtes comme David Salles,
oui,
qui lui aussi des fois a l'habitude de faire des comédies et qui va se retrouver certainement dans un rôle différent vu le sujet.
C'est vrai, absolument, oui. Absolument.
C'est venu de le choisir, c'est venu comment?
Ah bah David Salles, il y en a plusieurs des nouveaux, mais commençons par lui. Non, David Salles, il m'a été suggéré par Michael justement parce qu'ils ont travaillé ensemble. Et voilà, je recherchais quelqu'un avec un air un peu brutal, un peu acariâtre comme ça, sans être trop âgé non plus. Et voilà, donc oui, on a commencé à parler de David, et puis j'ai pensé que ça pouvait être effectivement une très bonne idée.
Thierry Frémont,
ben Thierry, c'est un très bon ami à moi, donc ça fait déjà 10 ans qu'on essaye de trouver un projet commun sur lequel travailler, et voilà, ça y est, c'est fait.
Albert Delpy,
génial. Moi, j'adore Albert. Moi, je connais un peu sa fille, je connais Julie, et c'est un gros plaisir de travailler avec Albert, cette espèce de Père Noël sous acide, comme ça. Moi, je trouve ça génial, quoi. Il est super, Albert.
Un petit mot peut-être sur leur rôle. Ou pas encore?
Bah oui, on peut dire. Thierry, lui, va jouer une sorte de mécano dans une casse, on va dire. On a une scène un petit peu pivot avec lui et donc Jean-Luc Couchard. Albert Delpy, lui, va nous faire un magnifique fermier.
Ouais, c'est ça, une sentinelle, un agriculteur sentinelle.
Voilà, et ouais. David Salle va nous faire le père de
Jean-Luc. Le père de Jean-Luc, petit, exactement.
Quand Jean-Luc est plus jeune.
Ouais. D'accord, et il y a des filles aussi, bien sûr.
Bien sûr, heureusement.
Il y a des filles, oui, mais jeunes.
Il y en a des jeunes, il y en a des moins jeunes.
voilà, oui, on a une nouvelle comédienne quasiment principale, en fait, qui est une petite fille absolument incroyable, qui a 9 ans, qui s'appelle Zélie. Et c'est vraiment une, enfin pour moi c'est la révélation vraiment du film. Alors bon, enfin oui, c'est ma révélation. Elle est incroyable, cette petite. Vraiment, on a casté plus de 180 petites filles, et c'était la 180e.
Ah, d'accord.
Et bon, il y avait un petit peu de tout, hein, il y avait à boire et à manger, hein, dans ce grand casting. Je me disais que je pouvais travailler avec certaines, mais sans un enthousiasme vraiment avéré. Et je me suis dit, bon, bah écoute, faut faire avec ce qu'on a, quoi, tout
c'est
simplement.
C'est un peu, on va dire que Zélie est un peu le même effet que Mélanie Guedos quand vous l'avez rencontrée.
Ouais, absolument. Je me suis dit c'est comme une évidence, quoi, quand vous rencontrez vraiment une personne, vous dites, bah voilà, c'est exactement ça, c'est elle que j'avais en tête, de 100% de A à Z, elle a une espèce d'intelligence comme ça, malgré son jeune âge. C'est vraiment une adulte, en fait, hein. Elle a compris totalement le personnage, elle l'a interprété avec une perfection qui a mis tout le monde, qui a collé tout le monde au mur, quoi. C'est de dire, ah oui, d'accord, ouais, là, il y a du niveau, quoi.
Eh bien, oui, en fait, c'est à partir du moment où on a casté cette petite et que Quark a validé cette gamine, on a remis ciel et terre pour l'avoir à tout prix sur le tournage, alors qu'elle est très prise, en fait. Là, je ne sais plus avec
elle. Ah, elle est déjà comédienne aussi.
Oui, ouais, elle vient de faire un long métrage avec Laetitia Casta. Elle termine demain, je crois. C'est une grosse comédie française, là, vraiment, ouais, c'est une grosse machine. C'est sur le facteur cheval.
D'accord.
Voilà, c'est une histoire assez intéressante. Bon, enfin bon.
Enfin voilà, mais ça
et
va
du
être.
Coup,
ça,
vous avez réussi à la voir, en tout cas.
Et on a réussi à la voir, et vraiment, on est super content de
quel
travailler avec elle. Elle a 9, ouais. 9 ans.
Donc, du coup, en tant que petite. Enfin, jeune adolescente, enfin, pas encore adolescente,
même
mais
pas.
Petite fille, ouais.
Ouais.
J'imagine qu'il va y avoir une façon de tourner qui va être différente. L'horaire de tournage, tout ça, est-ce que ça va demander.
Fait, ouais,
oui et non.
C'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle est dans beaucoup de scènes, donc il faut qu'on adapte, nous, en fonction de la légalité, qu'on adapte nos manières de fonctionner. Mais au final, au niveau de la préparation et de ce qui me concerne, on a eu beaucoup de chance puisque tout s'est quand même. Construit assez facilement, et on a eu beaucoup de chance sur ça, et tout s'est imbriqué assez facilement. Donc du coup, on peut la faire tourner le lendemain légal, sans
d'accord.
aucun souci.
Tout s'est bien enquillé.
Tout s'est très bien enquillé. Enfin bon, on a des petits passages de la DAS quand même sur le tournage, voir si on n'abuse pas trop, mais on va abuser, mais pas trop.
et du coup, justement, par rapport à Mickaël, par rapport au travail de premier assistant réalisateur et le travail que vous faites avec Quarks, comment ça s'embrique tout ça? C'est-à-dire, dans quoi il soulage, Mickaël, dans le travail?
Il soulage beaucoup, hein, à différents niveaux, mais je t'en prie, tu vas répondre peut-être, Mickaël, tu seras plus à même que moi.
C'est-à-dire que mon travail, c'est de prendre toutes les volontés du réalisateur et les transformer en données pour l'équipe, et de faire en sorte que tout soit fait en temps et en heure. Donc voilà, à partir de là, je récupère le scénario, j'en discute avec le réalisateur, et je transforme tout ça en un magnifique tableau Excel.
C'est vrai ? En découpage ?
Voilà, et je fais un magnifique tableau Excel avec chaque volonté par séquence, par poste, et je transmets ça donc à l'ensemble de l'équipe technique. Et puis après, il faut s'assurer que ce qu'il a envie de faire, c'est faisable. Ça soit bien faisable.
Alors d'abord,
trouver des solutions.
On assure d'abord la technique, si tout est possible au niveau des scènes, et après on assure le planning des comédiens, ou c'est d'abord qui est libre quand.
En fait, ça se fait de manière différente. C'est soit on a vraiment envie d'avoir un comédien, dans ce cas-là, on se plie à ses volontés et à ses disponibilités. Soit on a un lieu qui nous oblige à venir à telle date, et donc dans ce cas-là on s'arrête à cette date-là et on construit notre truc autour, et en fait les deux données, c'est la disponibilité des comédiens, la disponibilité des décors, et à partir de là après on fait notre planning, et puis voilà, s'il y en a un qui n'est pas disponible, s'il y a un des trucs qui n'est pas disponible, on essaie d'aménager, de trouver des solutions, des compromis pour avoir tout ce qu'on voulait à l'origine, quoi.
Mais parfois je veux faire des choses et il me dit que c'est pas possible, et ça, moi, j'aime pas trop.
Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont déjà vous avez dû vous asseoir dessus, comme on dit?
Oui, il m'a fait enlever quelques trucs, hein. Alors ça, moi, je proteste, mais
d'accord.
Non, mais après, il faut être ultra terre à terre et ultra pragmatique. C'est qu'à un moment donné, il y a des trucs qui servent la narration, et ça, il faut conserver ces choses-là. Il y a des plans qui servent la narration, il y a des séquences qui sont totalement dingues à tourner, qui vont coûter ultra cher, mais il faut absolument les préserver. Et il y a des trucs qui sont moins importantes et qui servent moins la narration. Et à ce moment-là, il faut convaincre, faut expliquer au réalisateur qu'en fait, c'est moins important et que son film sera tout aussi bien s'il n'y a pas ça.
Non. Je suis désolé, je veux rétablir la réalité des choses. C'est surtout sur la sécurité où on s'embrouille, on n'est pas d'accord.
Parce que
Michael, pour moi, il est trop sécuritaire et moi, je suis un peu trop Hong Kong style. Alors forcément, parfois, on se rejoint au milieu, quoi. Mais voilà, ouais, c'est ça.
Est-ce que les comédiens ont un mot à dire en disant, attendez, moi je suis à fond, il a dit oui, ok, il y a de la sécurité, mais il est prêt à faire la cascade, ou prêt à faire ceci, ou prêt à faire cela?
C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une histoire de compromis, de discussion, quoi. Il y a des trucs qu'on sait faisables. En fait, en tant que premier assistant, je suis aussi là pour assurer la sécurité de tout le monde sur le plateau. S'il y a un problème, le moindre truc, la moindre décision qui a été prise ou quoi que ce soit, c'est moi qui suis responsable. Donc c'est moi qui vais en prison. Avec la production.
Pas, quand même.
Donc voilà, mais c'est-à-dire, si jamais il y a un pépin ou quoi que ce soit,
on vous tape sur les doigts, vous.
Voilà, en priorité. Et puis après, c'est des trucs à voir avec les comédiens. Donc voilà, quand un comédien dit qu'il veut faire sa cascade, on s'assure qu'il est capable de la faire, déjà, parce que si jamais il se casse la gueule et qu'il se relève pas après, ça va être un petit peu compliqué pour finir le tournage. Mais oui, s'il est capable de faire et qu'il nous a prouvé qu'il était capable, on le laisse faire, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, parfois on prend des risques, et c'est obligé de prendre des risques. On peut pas faire tout en ultra sécurité en permanence.
Ah, ça, j'aime bien entendre ça.
Voilà.
Et alors, du coup, il y a eu des grosses batailles pour des scènes?
Non, pas des grosses batailles, des petites choses, quoi.
Petites choses.
Je voulais qu'une de mes comédiennes, par exemple, soit traînée dans des escaliers et que sa tête heurte chaque marche à la descente, quoi. Donc, parce qu'elle est traînée par les pieds, quoi. Donc, bam, bam, chaque marche, lui cogne la tête, quoi. Mon ami Michael, il m'a refusé. Là, il n'était pas d'accord.
On peut pas mettre de la mousse sur toutes les marches.
Moi, je l'aurais fait.
C'est que chaque décision engendre forcément des conséquences derrière. Et quand on veut faire un truc comme ça, ça veut dire, il faut protéger la comédienne en priorité, parce que c'est une personne, quand même. Il faut faire attention à elle. Il faut protéger.
Est-ce que techniquement, ce serait possible?
Est-ce qu'on peut refaire la séquence derrière?
On n'avait pas cette.
Mais après, bon, c'était une discussion qu'on a eue comme ça, mais voilà.
Non, mais c'est vrai, normalement on s'entend très bien, on n'a pas d'embrouille, ça se passe très bien.
Et il me semble qu'à la sortie du film, en fait, les spectateurs ne se demandent pas où est passée cette séquence avec la fille qui se fait traîner dans
le film. C'est sûr, ceci dit, elle aurait été là, ils auraient aimé quand même.
C'est un autre débat, on fera une autre émission sur ça.
Ok, ça marche.
En tout cas, bonne ambiance, vous vous sentez pas trop stressé pour le moment, tout est tellement bien préparé, plus ou moins que tout va bien se passer. Lieu de tournage alors?
Eh bien, toute l'Île-de-France. Voilà, on va voyager dans toute l'Île-de-France. On a choisi les coins les plus proches de Paris, où il y a zéro RER, zéro transport, zéro. Il n'y a rien.
Alors, comment ils viennent, les comédiens?
On se pose toujours la question.
Non, ils ont des chauffeurs.
Non, mais du coup, c'est aussi un autre truc. Ça, c'est que, c'est la logistique pure et dure, et que, forcément, pour aller à 2 heures de Paris, il faut des véhicules, il faut pouvoir transporter tout le monde. Voilà,
et est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a des journées aussi sur place à des endroits? Ou est-ce que tout le monde va, ça veut dire que ça va être des longues journées de travail et tout le monde va rentrer après sur Paris?
Vous mettez des points sur des sujets qui fâchent à chaque fois.
C'est, vrai,
c'est pas possible ça. Parce que non, ça aussi c'est un sujet tendancieux ça.
C'est vrai, mince.
Bah oui, c'est un sujet
là,
très tendancieux.
Là, c'est nos campings, hein, tout le monde.
Parce qu'il y en a plein qui veulent rester effectivement sur place entre certaines séquences et nous on n'avait pas les moyens. Donc
camping.
Ouais, mais camping, il y en a qui sont malheureusement trop vieux maintenant pour faire du camping ou trop riches.
Ou alors ils ont la connaissance du code du travail.
Ou ils ont la connaissance du code du travail. Ouais, je crois que c'est ça d'ailleurs plutôt.
Est-ce que du coup, parce que c'est un long, on est plus serré que du freestyle en court métrage où des fois il y a.
Moi j'ai toujours eu l'habitude de faire des films quand même assez serrés, hein, donc j'ai l'habitude du serrage, du régime drastique. Donc c'est. Non, je dirais. Bah, plus serré, je dirais plus ou moins pareil, franchement. J'ai fait un court métrage à 50 000 euros. Là, je fais un long à 500. Donc, on a 10 fois plus de moyens, mais finalement, c'est un peu la même démarche d'économie. C'est à peu près, franchement, je ressens les mêmes contraintes, finalement, que sur le court. Malgré qu'on ait 10 fois plus de budget, bon, après, on tourne quand même 2 fois plus, donc en même temps, faut faire un ratio qui est applicable, mais non, je dirais que c'est les mêmes galères. Voilà. Parce qu'en fait, on fait un film à 500, on fait un film qui coûte à peu près 500, mais là où il nous en faudrait au minimum le double. Voilà. Donc, chaud. Je peux rappeler quelque chose?
Mais oui.
À ce sujet, alors là, pour tous les auditeurs, attention, coupez votre télé, coupez tout le son parasite au pouce. Voilà, on voit mes paroles. Il nous manque véritablement de l'argent. Alors je crois que le problème que les gens ont, c'est qu'ils sont quasiment sûrs que le film va se faire. Ils se disent, bon, bah, quoi qu'il arrive, c'est bon, il est arrivé à trouver ses fins, il n'y a pas de souci. Le fait est que réellement, non. Il nous manque encore à l'heure actuelle de l'argent pour pouvoir boucler ce tournage. Et nous avons lancé un crowdfunding. Nous avons un Kiss Kiss Bank Bank sur le film que je vous invite vraiment à aller. Alors même si vous donnez rien, allez quand même jeter un coup d'œil. Vous aurez toutes les informations possibles et inimaginables sur ce beau projet, sur ce film. Et si vous êtes vraiment en
donc Kiss Kiss Bank Bank tous les dieux du ciel.
Voilà, Kiss Kiss Bank Bank. Alors c'est Bank Bank hein, comme la BANK. Oui, tous les dieux du ciel, absolument. Vous tomberez sur la page du film et avec voilà toutes les explications. Alors pour ceux qui ont vraiment pas trop d'argent, bah partagez-le un maximum. Et puis pour ceux qui ont un petit peu de pécule pour pouvoir nous aider, ça va de 10 euros à 10 000 euros. Donc vous avez vraiment le choix. Vous avez des super cadeaux, des goodies de folie à gagner. Des extraterrestres, des sacs, des trucs. Bon, enfin, c'est la folie.
Une journée peut-être de tournage.
Absolument, il y a ça aussi. Il y a une journée sur le tournage, être figurant, une masterclass avec moi. Enfin bon, il y a tout plein de trucs sympas. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à aller sur Kiss Kiss Bank Bank, tous les dieux du ciel. Voilà.
Mais de toute façon, on va vous suivre tout le long du tournage. Donc tout le long du tournage, on aura l'occasion de parler. Et on va faire une petite pause et on revient juste après. Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live en tournage pour tous les dieux du ciel. Et vous êtes au bon endroit tout de suite.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre
sur Séance Radio, c'est la séance live et c'est jusqu'à 17h. Extrait de la BO du film Un ciel bleu presque parfait. Film d'ailleurs qui a remporté le grand prix du public à l'étrange film festival. Son dernier grand prix, quel beau prix pour démarrer son long d'ailleurs.
Absolument, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous met bien en route là sur les starting blocks, ça nous a bien donné la pêche.
Alors on a écouté la bande-annonce tout à l'heure, pour ceux qui auraient envie en tout cas de connaître aussi les origines d'Un ciel bleu presque parfait, il suffit de réécouter le podcast, hein. Vous étiez venus ici nous parler de ce film. Alors on l'a dit, Tous les dieux du ciel, c'est le long métrage que l'on va suivre sur Séance Radio avec En tournage. Alors c'est inspiré d'Un ciel bleu, enfin inspiré. C'est pas un fil rouge qu'on tire. Si vous avez l'occasion de regarder Un ciel bleu presque parfait, ne vous dites pas que vous allez voir une suite, mais ce sera le même univers avec certains personnages qui reviennent, mais un nouveau film.
C'est un nouveau film, un nouvel univers développé à l'extrême. C'est Un ciel bleu presque. Un ciel bleu presque parfait sous stéroïde. Voilà, c'est tous les dieux du ciel.
Tous les dieux du ciel. Alors, rappelez-nous un petit peu comment est né un peu Tous les dieux du ciel, qui en fait c'était lui en premier quelque part, même oui. S'il n'avait pas encore son nom avant d'en faire son court métrage.
Bien sûr. Pardon, c'est quoi la question là? J'ai pas.
Comment
j'ai...
il est né?
Ah, comment il est né?
Le bébé.
Tous les dieux du ciel.
Bah, ouais. Tous les dieux du ciel étant un peu.
Moi, j'étais quand même quelque part un peu frustré de ne pas avoir pu m'exprimer de la façon dont j'aurais voulu m'exprimer sur le court métrage. Donc, quelque part, il y a eu une forme de censure financière qui ne m'a pas permis, voilà, de raconter l'histoire que j'avais envie de raconter. Et d'une façon extraordinaire, cette possibilité m'a été offerte ensuite, donc, par la suite. Dû au succès d'un ciel bleu presque parfait. Donc, encore une fois.
Mais à l'origine, justement, d'un ciel bleu presque.
Ciel bleu presque parfait, mais je crois
que. L'origine, c'est un peu la même, puisqu'en fait, d'abord, il est né. Cette origine, elle est née. Vous avez écrit d'abord le long, et finalement, vous en avez sorti un court. Oui. Mais l'origine, c'est la même.
Mais en fait, au départ, quand j'ai écrit, j'étais pas parti pour écrire un long métrage. J'étais parti pour écrire un court métrage, mais j'ai vraiment été happé par ma propre histoire. Et puis moi, j'aime le cinéma renégat, le cinéma punk. J'aime le cinéma qui ne t'ennuie pas. J'aime que des films ce soit vraiment comme un coup de poing dans la gueule, quoi. C'est ça qui m'intéresse au cinéma. Je trouve que le cinéma est fait pour développer des sentiments, des sensations, et je trouve qu'il y a rien de pire au cinéma que l'ennui. Voilà. Alors, je voulais faire un film anti-ennuyeux. Et un film qui laisse des traces aussi, qui est un film que dont certaines images vont vraiment s'imprégner en toi et vont se garder dans ton imaginaire pour un certain temps.
Un peu comme Seven, quoi.
Alors oui, pourquoi pas.
Moi, c'est ça.
Alors comme Seven. Voilà. D'accord.
J'espère que.
Non, mais ça me va très bien.
Mais moi, ça.
Voilà. Écoute, pourquoi pas.
Un peu ça.
Pourquoi pas. Voilà. Ok, comme Seven.
Seven ou même Irréversible, par exemple.
Ah oui, voilà. Oui, mieux. Mais Seven, c'est bien aussi. Absolument. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. Et donc, alors après, quand j'ai proposé aux personnages principaux, donc Jean-Luc Cochard et principalement donc Mélanie et Jean-Luc, se dire, bon, bah voilà, écoutez, là, je suis parti sur une autre idée, sur un autre projet. On va développer un ciel bleu en un long métrage qui s'appellera Tous les dieux du ciel. Alors, au départ, ils étaient assez séduits par l'idée, bien que, des idées comme ça, ils en entendent un peu tous les jours, des gens qui veulent faire un long, soit adapté d'un court, soit pas adapté d'un court, hein, faire un long tout simplement. Il y en a beaucoup, il y en a plein, et le problème, c'est que 9 fois sur 10, ça va pas à son terme. Donc, ils se sont dit, ouais, sans trop y croire, je crois, au départ. Mais ils n'avaient pas pris en compte ma motivation sans faille quant à ce projet.
Et à cette histoire.
Et à cette histoire, absolument. Moi, j'étais prêt vraiment à tout pour arriver à mes fins et pour arriver à trouver les fonds nécessaires et cette fois-ci aller au bout de mon idée et tourner ce long métrage. Donc voilà, maintenant, je crois qu'on peut dire que ça s'est fait, quoi.
Ah bah, ça va se faire, en tout cas. Oui, vendredi, voilà.
C'est parti.
Vendredi, c'est. Quoi action coupée.
C'est d'abord action
coupée, ça sera après.
Moteur. Alors voilà. C'est quoi, qu'est-ce qu'on dit?
Silence. Moteur.
Action.
Ça tourne.
Action. Ouais, action.
Alors ça tourne, c'est pour qui? C'est le son.
C'est le son qui dit ça tourne, oui.
D'accord.
Mais oui. À l'époque, vous avez encore des bobines. Ça tournait à l'époque.
Ouais.
Alors silence, qui le dit?
C'est moi.
Premier assistant réalisateur.
Plusieurs fois dans la journée, oui.
D'accord. Ensuite.
Moteur, logiquement, c'est le réalisateur.
D'accord, Quarks.
C'est moi.
Ensuite.
Ça tourne, c'est la réponse du son. C'est cadré, c'est la réponse du caméraman.
Action,
c'est
moi.
Le réalisateur.
Dernier mot, c'est action, c'est pour vous.
Voilà. Et voilà. Et couplé, c'est lui aussi.
Et couplé, c'est moi aussi.
Et donc, ce sera vendredi 22, journée de tournage, journée ou nuit?
Journée. On a un truc assez étrange et à la fois intéressant sur ce film-là, c'est que c'est un film de genre qui n'a quasiment pas de nuit à l'intérieur. Alors que la plupart des films de genre se passent tout le temps de nuit, sous la pluie, avec de la boue décidée là, alors que là, il y a quasiment que la journée à l'intérieur. 90% du film, c'est de la journée. Ouais. Ce qui est assez original, on va dire, qui nous arrange, nous, en tant que techniciens et au niveau logistique et tout ça, c'est beaucoup plus simple.
Ah, mais c'était déjà le cas aussi dans Un ciel bleu presque parfait.
Ouais, il y avait quelques nuits.
Il y avait quelques nuits, mais pas tant que ça. Ceci dit, là, on a quasiment que du jour.
Et là, on a un truc qui est assez intéressant et qui nous permet de tourner en jour, tourner pendant la journée, c'est qu'en fait, on avait le décor principal de ce court-métrage-là, qui était une énorme maison, qui était la maison donc, des deux personnages principaux, qui n'existe plus.
Excuse-moi, Mickaël, je te coupe pour rajouter juste un truc. Cette maison, elle a vraiment été prise comme un personnage central du film. Ouais. C'était vraiment la maison, le cœur presque de l'histoire. Ouais. De cette fratrie discordante qui vivait dans cette maison. Hein. Et c'est vraiment un personnage dans l'histoire. Et quand j'ai voulu repartir sur le long, et que j'ai vu que cette maison n'existait pas, bon, c'était un gros problème. Parce qu'effectivement, c'était une maison incroyable, avec vraiment très très particulière. Ça m'a mis plus d'un an à trouver cette maison. Ouais. C'est un décor irremplaçable et on l'avait plus. Donc
on a cherché de partout une baraque qui puisse avoir cette âme particulière. Et donc Alex, Quark, avait trouvé cette maison-là. Elle a été trouvée. Ah, c'était une maison qui devait être démolie pour être.
Au départ, sur le court métrage, hein,
Sur le court métrage, en tout cas. Quand on a tourné à l'intérieur, on a tourné une dizaine de jours, je pense, à l'intérieur. Je ne me rappelle plus, on a tourné à peu près 10 jours. Donc il y a tout qui se passe à l'intérieur. Sauf que dans la version longue, maintenant qu'on est en train de tourner, il y a donc des séquences qui ont été rajoutées dans cette maison-là, sauf que la maison n'existe plus. Et là, le challenge qui est aussi intéressant pour l'équipe.
Est-ce que c'était de la
décoration, c'est que l'équipe déco a reconstruit en tout cas une des pièces de la maison. Et nous, on refait vivre via un subtil. Le travail de montage et de recherche, on refait vivre le reste de la maison dans d'autres maisons déjà qui existent et qui sont à peu près similaires. Et seulement, en fait, voilà, c'est que l'équipe déco a dû reconstruire donc toute une partie de cette baraque.
Ah bah du coup, on va en pouvoir en parler avec en tournage.
Ouais,
ils
ont repris les côtes de tout de toutes les pièces. Donc ils vont reconstruire le sol, ils patinent les murs. Voilà. Et donc tout ça, on va le reconstruire en studio pour avoir quelque chose qui soit ultra réaliste et qui puisse paraître comme étant exactement le même décor.
Comme quoi, rien ne vous arrête, Quarks.
Ouais. Rien.
Même si on me détruit ma maison,
je la reconstruis, c'est pas grave.
Voilà, et l'avantage, c'est qu'on tourne en studio, on va tourner en studio dans un décor, et du coup, on va pouvoir s'affranchir de tous les problèmes de jour, de nuit et tout
ça. Ah oui, donc du coup, là, il pourrait y avoir des tournages de nuit, peu importe.
Exactement. Ah ouais. Donc, on va avoir une nouvelle maison toute neuve reconstruite.
Et c'est drôle parce qu'on partage le studio avec le tournage de Aladdin 2. Ce n'est pas vraiment dans le même registre, mais je sens que la cohabitation va être sympa.
Ah bah oui, deux choses complètement différentes, ça va être drôle.
On va essayer de faire venir Kev Adams sur le
plan. D'accord, pas de problème. On a parlé un petit peu de ce lieu de tournage. Premier jour donc en journée, premier jour de tournage vendredi, ce sera en journée. Ça va se pousser jusqu'au vendredi 13 octobre.
Exact.
Voilà, tout le monde n'est pas superstitieux, tout va bien, 13, voilà. Des plans ou des endroits, parce que vous avez dit que vous allez tourner en Île-de-France, que vous avez découvert un peu, des petits bijoux cachés que vous connaissiez pas.
Oui. Moi j'ai fait toutes les églises, toutes les églises de Paris. J'en ai pas raté une seule.
C'est vrai?
J'ai fait tous les arrondissements, tous les diocèses, toutes les paroisses, toutes les chapelles. Je les connais toutes. Donc j'ai découvert plein de lieux dans Paris magnifiques que je connaissais pas, super, même des trucs orthodoxes et tout, j'ai découvert des trucs super.
Quoi que c'est devenu le Laurent Dutch
de l'église à Paris, absolument.
Il connaît tout.
Absolument. Oui, parce que ça peut être une main facile à faire de trouver cette... C'est parce qu'on doit tourner dans un décor d'église et voilà, ça a été très compliqué aussi à trouver ça, mais ça y est, c'est bon, on y est. Et ça m'a permis de découvrir des endroits assez atypiques. C'est toujours sympa et à la fois stressant le repérage parce que parfois on peut quand même passer des journées entières en bagnole, rien trouver et on est assez démoralisé le soir en rentrant chez soi, on a un peu l'impression d'avoir perdu sa journée et ça peut se reproduire des dizaines de fois consécutivement.
Et donc, quand on fait du repérage, on fait quoi? Des photos aussi, des endroits, on dit tiens celle-là, on comparera avec celle-là.
Oui, bien sûr. Oui,
Google Earth.
Oui, Google Earth.
C'est ton meilleur ami.
Voilà, exactement.
Photo, vidéo,
la totale. Google Earth, photo, vidéo. On amène après les gens sur place. Voilà, donc un premier repérage, un deuxième repérage technique. Ouais. On prend les côtes, on mesure tout.
J'ai découvert un endroit super que je connaissais que de réputation, mais qui est à l'abbaye de Royaumont, qui est un magnifique endroit dans lequel on va tourner pendant 2-3 jours.
On va tourner à l'hôpital psychiatrique de Villévrard.
L'hôpital psychiatrique de Villévrard aussi, un hôpital abandonné une partie abandonnée, cet hôpital qui est vraiment assez, visuellement, où il y a véritablement une ambiance très pesante quand même.
Il accueille beaucoup de tournages, mais il y a toujours les personnes en fait qui sont en traitement là-bas et du coup, il est assez fréquent de les retrouver à la table régie en train de partager un café avec nous, donc c'est assez intéressant.
D'autres endroits comme ça, typiques.
Alors, on risque de bloquer quelques routes, donc il risque d'y avoir quelques embouteillages sur notre passage, puisqu'on va bloquer quelques départementales et tout ça dans le fin fond de l'Île-de-France.
Mais on s'excuse d'avance.
Voilà, désolé, c'est pas notre faute. Il y a plein de lieux comme ça assez intéressants qu'on a tous pris à chaque fois pour ce qui est dégagé, pour le projet qu'ils avaient directement.
Ouais.
Tous les dieux du ciel, on vous souhaite qu'un bon tournage. On va vous suivre. Merci de nous accueillir tout au long du tournage. Merci. Je rappelle que vous pouvez continuer à aider la production du film Kiss Kiss Bang Bang, Tous les dieux du ciel. Et on va continuer à en parler tout au long d'un tournage, puisqu'on est avec vous jusqu'au 13 octobre.
Super.
On va vous faire vivre, chers auditeurs, ce tournage exceptionnel. Tous les dieux du ciel avec Jean-Luc Couchard, Mélanie Guédos, avec David Salle, avec la petite Zili.
Oui,
Zili. Avec Thierry Frémont, Albert Delpy, entre autres, et puis toute l'équipe technique qui fait que ce film aussi va se mettre en place et vit, puisqu'il y a toute la technique, mais aussi les costumières, le maquillage, les menuisiers qui ont construit
les effets spéciaux.
Voilà, on va tout faire vivre.
Au casting, pardon, je voulais juste rajouter Juliette Pumcock, qui est une comédienne magnifique, incroyable, géniale, que j'adore trop et qui vient de se greffer au casting il y a 15 jours. Voilà, elle est super. Elle jouait dans un film sur la radio, justement, Radio Star.
Radio Star.
Voilà, elle était super drôle dans ce film, j'adorais. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup à tous les deux, les garçons. Un grand M, comme on dit, pour vendredi. Et puis, de toute façon, on sera avec vous pour vous suivre. Merci de cette
beaucoup,
aventure.
Betty.
On va démarrer en tournage avec vous vendredi. À très vite sur Séance Radio.
De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.